Dans leur série « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent cette année, en 6 émissions, l'évocation des rapports entre la solidarité sociale et le monde protestant nîmois. Aujourd'hui, en quoi consiste cette solidarité sous l'Ancien Régime? Nous serons accompagnés par Jean-Sébastien Bach et ses variations pour son élève Gottlieb Goldberg.
Nous vous proposons donc cette année l'évocation à Nîmes des grandes étapes d'association coopérative, une forme structurée de la vie en société. Nous aborderons ce thème historique nîmois en nous interrogeant d'une façon plus générale sur la notion de solidarité sociale. Durkheim notait « Une société n'est pas simplement constituée par la masse des individus qui la composent, par le sol qu'ils occupent, par les choses dont ils se servent, par les mouvements qu'ils accomplissent, mais avant tout par l'idée qu'elle se fait d'elle-même. »
Mais comment peut-on faire groupe et permettre le vivre ensemble en dehors des idéologies excluantes fondées sur un bouc émissaire? Constatant que l'individu ne peut vivre sans attache, le sociologue Serge Pogan retient en effet le terme « attachement » pour exprimer cette solidarité constituée pour lui de quatre liens fondamentaux entrecroisés tel un tissu. Le lien de filiation qui s'impose, le lien de citoyenneté plus ou moins choisi, le lien de participation élective, les groupes affinitaires choisis, notamment religieux, et enfin le lien de participation organique plus ou moins choisi, tel le travail, qui est à la fois une protection, convention collective, protection sociale, et une reconnaissance. En cas de souffrance au travail, l'individu se sent inutile et dévalorisé.
La solidarité doit donc être vue comme l'attachement social, c'est-à-dire l'entrecroisement de ces quatre liens. Elle n'est donc pas qu'une question de prélèvements sociaux résumant souvent l'économie sociale et solidaire et perçue comme des droits quasiment naturels, établis de tout temps, voire des salaires que la société nous doit. Nous oublions que ce règlement collectif, plus ou moins obligatoire géré par l'État, ce régime général de la sécurité sociale alimenté par cotisations salariales et contributions patronales ne date en France que de 1945.
Dans les années 1900, Durkheim définissait le concept de solidarisme comme un corps social. Il disait que la solidarité est un fait d'une importance capitale dans les sciences naturelles puisqu'elle caractérise la vie. Si l'on cherche, en effet, à définir l'être vivant, l'individu, on ne saurait le faire que par la solidarité des fonctions qui lie les parties distinctes. Et la mort n'est pas autre chose que la rupture de ce lien entre les divers éléments qui constituent l'individu et qui désormais, désassociés, vont entrer dans des combinaisons nouvelles, dans des êtres nouveaux. Mais sur quoi reposait la solidarité sociale avant cette date? Il y a plusieurs manières de se sentir solidaire d'un corps social.
Le plus fréquent, car le plus commode, est l'identification qui généralement se construit par rapport à un groupe rival dont on veut se démarquer. Méthode efficace, mais bien peu évangélique, qui conduit donc à l'exclusion et à la radicalisation par surenchère de supposées valeurs opposées et ne peut donc aboutir qu'au conflit.
L'autre approche est au contraire basée sur une action ou un projet commun, hors de toute comparaison ou jugement, et avec deux démarches possibles. L'une, soucieuse d'investissement en vue d'une réciprocité future, psychologique ou pécuniaire, et l'autre, basée sur la gratuité du don au présent. Ce sont ces deux démarches que nous allons décliner ici dans le contexte nîmois, avec bien sûr insistance sur la dernière, conforme au salut par pure grâce, défendu par les réformateurs. C'est un hymne, une longue histoire, souvent liée, mais pas exclusivement bien sûr, à la tradition protestante.
On peut raisonnablement imaginer que les premières manifestations coopératives l'ont été sous forme d'entraide ou de troc de services. En premier lieu, bien sûr, la solidarité familiale, étendue au départ à une large parentèle, suivie de la solidarité villageoise puis urbaine, sorte de famille élargie, mais bien souvent identitaire, et donc exclusive.
Des protecteurs vont s'imposer par la force, à travers le système féodal, puis monarchique. Mais ils sont peu présents à Nîmes, qu'il s'agisse des Trencavel ou du roi de France après la guerre des Albigeois. Une relative autogestion par les consuls s'installe même dès le XIIe siècle, plus ou moins harmonieuse et identitaire, et contestée périodiquement par des conflits populaires ou des évêques autoritaires.
Des solidarités professionnelles émergent peu à peu à travers les compagnonnages de formation ou des confréries religieuses. Des communautés de métiers, jurées ou réglées sous protection et contrôle royal apparaissent, tout en réglementant la concurrence, l'accès et l'exercice du métier. Certaines corporations organisent une assistance entre professionnels volontaires en cas d'accident du travail. On y développe des aides financières mutuelles qui, favorisées par les débuts du commerce international, deviendront vers le XIVe siècle des assurances volontaires liées au système bancaire naissant.
Cependant, hors du monde professionnel qui ne concerne alors qu'une minorité masculine, pour la majorité la moins favorisée de la population, la solidarité dépend parfois du clientélisme, mais surtout de l'Église. Se voulant universelle, cette solidarité religieuse se manifeste de différentes manières. Au départ, dans les monastères, qui pratiquent l'hospitalité avec des maisons de charité. Elle se développe ensuite dans les paroisses, à travers des chanoines ou des diacres, qui gèrent les biens alimentés par la dîme ou attachés à la cathédrale. Apparaissent alors, fondées par des laïcs mais tenues par des institutions religieuses, des écoles et des hôpitaux, qui sont à la fois hôtels d'accueil, hospices, orphelinats et, accessoirement, centres de soins.
Nous connaissons à Nîmes certains de ces hospices médiévaux. La Sainte-Croix, rue de l'École Vieille, les Quatre Chevaliers, 31 et 33 rue de la Madeleine, Saint-Marc, sur la Grand-Rue, pour l'hospitalité, emplacement de l'actuel muséum. De leur côté, pèlerinage et croisade génèrent des ordres hospitaliers, franciscains, hospitaliers, confrérie de Saint-Jacques.
Au XIIIe siècle, un hôpital Saint-Jacques se tient sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, à l'extérieur de la porte romaine d'Espagne, future porte des Augustins puis de France. Des moines de Saint-Antoine du Viennois, d'où le nom du quartier, y installent une maladrerie pour la lèpre. Et au XIVe siècle, l'établissement sera réservé aux contagieux, en 1483. Il y a également dans cette zone une maison de Saint-Jacques, intramuros, devenue au XIVe siècle l'hôpital des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
Il y a enfin, fondé en 1313 par Raymond Ruffy, un riche commerçant mort en 1330, un hôpital de 12 lits destiné aux pauvres malades dans une maison qu'il possédait à côté de la porte romaine des Augustins, à charge pour ses héritiers d'en assurer la gestion, ne voulant pas que nul autre ne s'immisçât dans cette administration, pas plus le pape ou ses représentants que le roi ou ses officiers. Deux femmes y étaient logées, nourries et préposées aux soins.
On voit ici pointer une mentalité nouvelle, où l'individu s'affirme face au groupe, avec une connotation vaguement anticléricale, pondérée cependant par les dons faits en même temps pour le salut de son âme aux franciscains, dominicains, frères du Mont-Carmel et religieuses de Saint-Sauveur de la Fontaine. Mais de fait, ces héritiers céderont l'hôpital aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui tenaient déjà les autres hôpitaux de la Porte de France.
Au XVe siècle, nous aborderons la laïcisation et la solidarité municipale. Vers le XIVe siècle, le commerce international se développe, source de guerres nationales, d'épidémies, de crises économiques et de troubles politiques, travail collectif et paupérisme urbain. Le consulat se soucie désormais du risque social. Une volonté organisatrice et moralisatrice de l'élite dirigeante se développe avec la Devotia Moderna et finalement la pré-réforme qui infiltre les milieux intellectuels, des religieux surtout, avec quelques nobles cultivés, puis la frange de bourgeoisie acquise à l'humanisme développée par le Quattrocento italien.
Une bonne illustration de ce nouvel état d'esprit est la fondation de la Maison de l'Avocat des Pauvres, achetée en 1449 par Louis Raoul, un avocat originaire de Bernice qui défend les indigents, les veuves et les orphelins. Il meurt en 1484, laissant une jolie fortune. Trois maisons intramuros, un jardin dans un des faubourgs, des vignes et des olivettes. Ces biens alimentent sa fondation, testée dès 1460 pour les pauvres, qui aurait besoin d'un défenseur devant les tribunaux. Il avait nommé Jean Auban à cette fonction et ses successeurs devaient être élus par des officiers royaux, soit de la Sénéchaussée, soit de la Cour royale ordinaire de Nîmes, ainsi que par les avocats de ces deux cours et par les consuls et les conseillers de la ville, alternativement.
L'avocat élu doit prêter serment de bien remplir sa charge gratuitement pour les Nîmois et les Bernissois nécessiteux. En échange, il est logé dans la maison léguée, ornée à la fois des armes du roi et de celles de la ville, et avec une bibliothèque humaniste et une collection de pièces antiques selon la mode en usage dans la bonne bourgeoisie nîmoise. Par le même codicille, il demandait aux exécuteurs testamentaires de faire célébrer des messes dans les couvents des quatre ordres mendiants de Sainte-Croix et de l'abbaye de Saint-Sauveur de La Fontaine, et de l'enterrer dans la chapelle des Dominicains, dans le Faubourg Nord.
En 1483, suite à épidémie, les consuls décident d'acheter tous les hospices intramuros et de regrouper leurs activités, pour les non-contagieux, dans l'hôpital Ruffi. Agrandi avec trois grandes salles communes pour les hommes et une au premier étage, et une grande salle au rez-de-chaussée pour les femmes, celui-ci devient l'Hôtel-Dieu et est confié aux franciscains. Or, ceux-ci passeront majoritairement à la Réforme vers 1560 et l'Hôtel-Dieu avec eux. L'évêché de Nîmes étant alors commendataire, les consuls écrivent à l'évêque Brissonnet pour demander, non sans humour, de nommer un homme de bien pour pratiquer l'hospitalité envers les pauvres qui sont en grand nombre, tant à l'hôpital que dans la ville. Mais finalement, ils organisent l'assistance des indigents malades ou femmes chargées d'enfants et collectent des aumônes, aux grandes dames des institutions ecclésiastiques. Assistance médicale, publique de la ville, mais aussi de contrôle. En 1533, craignant que, pour occupation des assemblées et conversation des pauvres, quelques contagions des pestes n'adviennent, le sénéchal ordonne que les mendiants valides soient arrêtés, enferrés deux en deux et employés à nettoyer les rues, fossés et chemins et autres lieux publics.
Le vieil hôpital Saint-Marc, tenu par les chanoines, est cédé à son tour en 1542 à la municipalité chargée en échange de l'hospitalité. La municipalité protestante, de 1561 à 1598, sauf de 1567 à 69, maintient cette sécularisation. Au consistoire d'éducation, au consul, l'assistance médicale et la gestion de l'Hôtel-Dieu qui accueille tous les malades. Mais en réalité, il n'y a plus de catholiques dans la ville entre 1569 et 98, et les deux pouvoirs sont partagés dans les mêmes familles. Partiellement détruit vers 1590, on reconstruit en 1601 un hôtel-dieu à l'emplacement de l'hôpital Saint-Jacques, à l'extérieur de la Porte de France. L'ancien hôtel-dieu est détruit dans les années 1620 pour construire le bastion de la Porte de France de l'enceinte de Rouen.
Le clergé catholique est revenu avec l'édit de Nantes, puis la bipartition protestant-catholique, obligatoire, après la paix d'Alès de 1629, tant pour le consulat que pour la gestion de l'Hôtel-Dieu ou des écoles. Dès 1633, les frères de Saint-Jean de Dieu créent la charité de Nîmes, la miséricorde, tenue par les sœurs de Saint-Vincent de Paul pour y recevoir les pauvres au nord du quartier Saint-Antoine. L'Hôtel-Dieu est reconstruit par l'évêque Cohon en 1659, en commençant par la chapelle. Son architecte protestant, Gabriel Dardaillon, devra abjurer après 1685. En 1663, Cohon obtient des consuls catholiques, maintenant majoritaires, l'installation des sœurs de Saint-Joseph de Moulins pour s'occuper de l'Hôtel-Dieu et de la Providence. Un grand couvent avec cloître à quatre galeries voûtées et un jardin le long de la route de Montpellier le reconstruit au nord de la chapelle.
En 1662, Louis XIV ordonne la création d'un hôpital dans chaque ville pour y loger, enfermer et nourrir les pauvres mendiants invalides, natifs des lieux, ou qui y auront demeuré pendant un an, comme aussi les enfants orphelins ou nés de parents mendiants. À Nîmes, c'est l'hôpital des Jésuites, construit extramuros à l'emplacement de l'actuel lycée Daudet, qui remplit cet office en 1686 au bon soin des religieuses de Notre-Dame du Refuge. Il comprend 152 lits pour 220 pauvres, avec un grand jardin et un pavillon réservé aux fous, environ 32, qui n'y entrent, sur ordonnance de police, que s'ils sont indigents. Sinon, ils doivent être pris en charge dans les familles.
Une police privée de l'hôpital fait la chasse aux gueux pour les y amener. Les pauvres reçus à l'hôpital général, quoique infirmes, ne restent pas oisifs, dit-on. On sait les occuper utilement, mais avec modération et proportionnément à leur force. Les femmes dévident la soie. Les hommes sont dans les filatures. Les plus infirmes et plus les débris de cocon. Et à 13 ans, les enfants, légitimes comme bâtards, sont blassés dans les manufactures de la ville ou chez les laboureurs. Et de préciser que c'est bon pour leur santé. On trouve les plus fréquents exemples d'une longévité refusée aux classes favorisées de la fortune.
Depuis la révocation, hôpital général comme hôtel-dieu demeurent gérés par les consuls, mais sont en réalité tenus par le clergé catholique. Il en sera de même pour l'hospice d'humanité construit en 1788 pour le recueil des enfants abandonnés.
Si bien qu'en 1765, profitant d'une certaine tolérance de fait, le consistoire protestant clandestin aménage son propre hôpital pour les pauvres malades qui n'ont point de domicile. Rue Saint-Laurent, dans la maison du sieur Doulot, molinier de soie. Le consistoire prie le sieur Laverne de vouloir accepter le bail de 6 ans à son nom, sous la promesse de le relever et de le garantir de tout événement. Sera de même fondé un hospice de charité pour secourir les pauvres protestants, malades ou infirmes.
Ces établissements fermeront à la Révolution.